cette séance vient prolonger une recherche que nous avions déjà entamée dans le cadre d'un séminaire du congrès de la European Society for the Study of English en 2021, qui portait sur les formes du refugee writing. Et donc, dans nos trois interventions aujourd'hui, nous nous proposons de continuer à examiner ce lien très fort qui unit la forme littéraire choisie par des écrivains et écrivaines de la période contemporaine pour relater des expériences de déplacement forcé et l'engagement politique et éthique que ces choix formels sous-tendent. Et donc nous nous concentrerons plus spécifiquement sur des exemples contemporains puisque cette littérature s'est particulièrement développée ces 10 dernières années. Pour une simple raison, c'est que les déplacements forcés ont beaucoup augmenté depuis 2010. Selon le site Oxfam, plus de 82 millions de personnes sont actuellement officiellement déplacées et la Syrie elle-même compte 13,2 millions de personnes déplacées, c'est-à-dire un sixième du total mondial. Donc Jane Chemacherry nous parlera plus spécifiquement des Refugee Tales, qui sont inspirés des Canterbury Tales de Chaucer, qui prennent des formes littéraires et intermédiales très, très diverses, tandis que Cédric Courtois se penchera sur la forme de la nouvelle, une forme qui a pu être qualifiée de mineure et que les autrices de son corpus ont choisi pour rendre compte d'expériences vécues par des personnes marginalisées et vulnérables. Et ma propre introduction vise à revenir sur quelques définitions et quelques modalités de la catégorie du refugee writing. Donc je commencerai par quelques mots de définition du terme réfugié. Nous le savons tous, c'est un terme instable, controversé, qui peut renvoyer à des situations très diverses. Selon la Convention de Genève de 1951, les réfugiés sont des personnes politiquement persécutées. Et pour les Nations Unies, une ou un réfugié est une personne qui se trouve hors de son pays d'origine en raison d'une crainte de persécution, de conflits, de violences ou d'autres circonstances qui ont gravement bouleversé l'ordre public et qui, de ce fait, a besoin d'une protection internationale. Souvenez-vous du terme « protection ». Alors, certains appellent toutefois une révision du terme pour inclure des facteurs économiques et écologiques qui contraignent les personnes à se déplacer. Il faut noter en effet que 80% des personnes déplacées dans le monde se trouvent dans des pays touchés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Alors, le mot « réfugié » tel qu'il est employé aujourd'hui diffère sans doute de son acception dans l'essai d'Anna Arendt datant de 1943, « We refugees », nous autres réfugiés, ou encore dans le chapitre 5 de son ouvrage « L'impérialisme » qui s'intitule « Le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme ». Mais je trouve qu'il y a des résonances assez troublantes avec la manière dont on parle des réfugiés aujourd'hui. Dans l'essai de 1943, Anna Arendt fait en effet l'état d'une succession de pertes. Je la cite « Nous avons perdu notre foyer, c'est-à-dire la familiarité de notre vie quotidienne. Nous avons perdu notre travail, c'est-à-dire l'assurance d'être de quelque utilité en ce monde. Nous avons perdu notre langue, c'est-à-dire le naturel de nos réactions, la simplicité de nos gestes, l'expression spontanée de nos sentiments. » Dans ses essais, Anna Arendt interroge la façon dont les structures et les institutions traitent les réfugiés, la façon dont elle les défend de leur citoyenneté et les soumettent à une vulnérabilité. Alors, étymologiquement, je reviens au chapitre 5 de l'impérialisme, le déclin de l'État-nation et la fin des droits de l'homme. Étymologiquement, « nation » renvoie à « natio », qui signifie « naissance », et l'État-nation fait donc de la naissance le fondement de sa souveraineté. Et donc le réfugié, qui pour sa part incarne une dissociation entre, on va dire, homme et citoyen, remet finalement en question les fondements de l'État-nation. Et donc le réfugié, selon Giorgio Agamben, qui lit Anna Arendt, le réfugié est un résident non-citoyen. Selon les mots de Thomas Hammard dans Democracy and the Nation State, le réfugié est un denizen, c'est-à-dire un résident, plutôt qu'un citizen, un citoyen. Et en 1994, donc Agamben, qui revient sur les essais d'Anna Arendt, note le paradoxe selon lequel, je cite, « la figure du réfugié qui aurait dû être par excellence l'incarnation des droits de l'homme va marquer au contraire la crise radicale de ce concept ». Et Agamben nomme la figure du réfugié un concept limite. Alors, ce sont des mots intéressants, hein, crise et limite. Ce sont des termes qui sont récurrents quand il est question de l'expérience des réfugiés, et nous pourrons y revenir pour évoquer l'écriture des expériences des réfugiés. Si j'en viens maintenant à des définitions plus récentes du terme des réfugiés, je vous suggère de vous reporter au numéro spécial de 2018 du Journal of Postcolonial Writing, qui était consacré à la refugee literature, où Claire Gallien aborde le débat taxonomique autour de cette dénomination réfugiée. Et elle se réfère en particulier à un article très intéressant intitulé « Qui dit quoi ?», rédigé par la coordination Sans Papiers 75 Paris, qui souligne que le choix de la désignation entre migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, exilés, sans-papiers, étrangers, immigrés, demandeurs déboutés, immigrés clandestins, etc. Cette dénomination est toujours politiquement et idéologiquement chargée. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, mais je vous invite à lire cet article. Et pour synthétiser, on aura tendance à distinguer les réfugiés qui ont un statut juridique et peuvent prétendre au droit d'asile des migrants qui renvoient souvent implicitement à une migration pour raisons économiques. Alors, le terme réfugié est toutefois trompeur. Et dans La fin de l'hospitalité, l'Europe terre d'asile, Fabienne Brugère et Guillaume Leblanc suggèrent d'utiliser plutôt le terme demandeur de refuge, plutôt que réfugiés, car les personnes que nous appelons réfugiés sont souvent des personnes qui attendent de devenir des réfugiés, qui demandent à se voir accorder le statut, le nom et l'identité d'un réfugié. Je cite Brugère et Leblanc. Qu'est-ce qu'un demandeur de refuge? Un être qui n'est pas encore un réfugié et ne le sera peut-être jamais. Un migrant qui voudrait être plus qu'un migrant et n'y parviendra peut-être jamais. Une vie en attente de désignation, dont les États-nations dits d'accueil ne savent pas quoi faire. Donc un demandeur de refuge se trouve dans une position intermédiaire ou liminale, attendant à la frontière, à la limite, au seuil entre deux mondes, n'appartenant plus à l'endroit qu'il a quitté, n'appartenant pas encore à l'endroit où il habite. On songe bien sûr, en études postcoloniales, à la métaphore du tiers-espace chez Homi Bhabha, du seuil, de la liminalité, de ce qui est nommé « in-betweenness » dans les études postcoloniales. Mais selon Claire Gallien, cette métaphore n'est pas adaptée ici, parce que pour Bhabha, cette zone liminale est un lieu de tension, de résistance et d'agentivité créative, alors que pour les réfugiés, le déplacement forcé est surtout synonyme de danger et parfois de mort. Alors, à ces métaphores spatiales qui sont assez courantes, je propose pour ma part de substituer un accent mis sur le temps, qui est le temps de l'attente. Brugère et Leblanc, vous vous souvenez, parlaient d'une attente de désignation, et ils écrivent aussi « Les demandeurs de refuge d'aujourd'hui sont suspendus à l'absence de toute désignation qui aboutirait à une reconnaissance minimale. » On ne naît pas réfugié, on le devient, par tout un parcours de demandeur d'asile, au terme duquel l'hypothèque de l'absence de désignation peut être levée. Celle ou celui qui franchit la mer n'est jamais un réfugié, mais bien quelqu'un en attente d'être un réfugié. Toute personne déplacée est ainsi dans un entre-deux indéfini, sorte de no man's land spatial et temporel, dans lequel la seule attitude possible est celle de l'attente. L'attente, telle est souvent l'expérience des demandeurs de refuge que l'anthropologue américaine Bridget Haas nomme des citoyens en attente, citizens in waiting, ou des déportés en attente, deportees in waiting, parce qu'ils attendent souvent pendant des années avant de savoir s'ils seront considérés comme dignes du statut de réfugié ou indignes et donc déportées. Et en attendant, leur vie est suspendue, hein, pour citer le récent ouvrage de Haas, Suspended Lives. Donc cette attente est très souvent dépeinte dans la littérature sur les réfugiés. Par exemple, dans la nouvelle The Hostel Life de Melatu Uche Okori, qui est une autrice originaire du Nigeria, qui a passé 8 ans et demi dans un centre de rétention administrative en Irlande de 2006 à 2014. Et la nouvelle, The Hostel Life, dépeint une matinée dans un centre de rétention où une groupe de femmes fait la queue pour recevoir leurs rations alimentaires. Et la journée de ces femmes qui restent des années dans ces centres de détention en attendant la décision sur leur statut est rythmée par la répétition de situations d'attente. Alors je vais citer un passage. From laundry to collect provision. From collect provision to check laundry. From check laundry to CGP. From CGP to collect food. From collect food to check laundry. En dépit des mouvements d'un lieu à l'autre qui est reflété par la formule from to, la circularité des actions quotidiennes et les répétitions lancinantes traduisent bien la sensation de stase et d'enfermement dans l'attente et la répétition. Alors Marie Mianowski et Jessica Small ont étudié l'écriture du care dans les nouvelles d'Okori, où les femmes du centre de rétention prennent soin l'un de l'autre, ce qui passe par le toucher en particulier. Elles s'aident mutuellement et elles fondent ainsi une communauté solidaire où la sollicitude, la bienveillance, le souci envers autrui sont mises en avant. Toutefois, les institutions et les structures peinent pour leur part à faire preuve de la même éthique du care. Vous vous souvenez, Brugère et Leblanc parlent de la fin de l'hospitalité, remplacée par ce que Jacques Derrida a nommé l'hostipitalité, hein, puisque l'étranger, hostis en latin, peut être traité comme hôte, ami ou allié, mais aussi comme ennemi, d'où cette union d'hospitalité et d'hostilité, hein, cette hostipitalité. Et la littérature des réfugiés rend compte de ces expériences d'hostipitalité, d'attente, mais aussi de rupture, de déstabilisation, de fragmentation, qui sont incarnées dans la forme même des écrits. Et c'est sur ces formes sur lesquelles je me propose de revenir à présent. Dans Displacement, Memory and Travel in Contemporary Migrant Writing, Jopie Nyman note qu'il est désormais possible d'envisager le refugee writing comme un genre littéraire. Et dans Genres of Refugee Writing, Anna Bernard note que, je cite, « l'éventail complet des écrits par et sur les réfugiés couvre la poésie, la fiction courte, les romans, le théâtre, la narration graphique, la littérature sur les, pour enfants, les lettres, la théorie, le journalisme, la législation et les rapports sur les droits de l'homme. » Alors, quelle forme prend le refugee writing ? En littérature, les expériences des réfugiés peuvent être relatées par les réfugiés eux-mêmes dans des livres fictifs ou non fictifs, sous la forme de mémoires, de témoignages, de récits autobiographiques. Ils peuvent également être relatés par des journalistes ou des écrivains qui rendent compte de la vie des réfugiés, ou encore par des romanciers, des auteurs de nouvelles, des dramaturges, des poètes qui inventent des personnages fictifs. Alors, ces créations, et en particulier les textes non fictionnels, ont sans doute en commun la volonté de témoigner, et donc ont souvent un but politique et éthique. Et ce qui nous intéresse tous les trois plus particulièrement aujourd'hui, c'est de voir en quoi les formes que prennent ces créations fictionnelles et non fictionnelles prennent en compte les questionnements éthiques. Comme le note Claire Gallien, je cite, « la littérature et les arts des réfugiés posent des questions fondamentales sur la manière d'articuler les expériences de la limite et sur l'opportunité de les représenter. » Donc la question éthique de l'opportunité de représenter de telles expériences et de savoir qui articule ces expériences est cruciale, hein, elle mérite la plus grande attention. Jane et Cédric vont plus spécifiquement explorer la question de la voix, de la légitimité et du risque d'appropriation, un sujet très épineux qui renvoie à la célèbre question de Gayatri Spivak dans son essai de 1985, « Can the subaltern speak ?» Et on notera au passage que pour David Ferrier dans « Postcolonial Asylum, Seeking Century Before the Law », les réfugiés sont les nouveaux subalternes. Alors si les réfugiés peuvent parler, la question de l'accessibilité de leur discours et de la langue dans laquelle ils le transmettent se pose. Dans un pays d'accueil où la pression d'assimilation est très forte, le réfugié qui parle devra sans doute se plier aux normes du discours du pays d'accueil et au rôle qu'il est censé endosser. Par exemple, le rôle de victime censé susciter de l'empathie et montrer sa reconnaissance envers le pays d'accueil. Ces questions sont abordées en particulier dans le texte non fictionnel de l'écrivaine irano-américaine Dina Nayeri, The Ungrateful Refugee, paru en 2019. C'est un ouvrage qui relate les expériences de demandeurs d'asile dans les camps de réfugiés au point d'entrée de l'Union européenne en Grèce. Et Nayeri y mêle, sur un mode non linéaire, son propre témoignage de ses années d'enfance en tant que réfugié, après sa fuite de l'Iran post-révolutionnaire à l'âge de 8 ans. Alors la forme est intéressante parce qu'elle avait déjà rendu compte de cette expérience, cette fois sur un mode fictionnel, dans son roman « Refuge » paru en 2017, qui peut être lu comme une condamnation de l'incapacité des pays d'accueil à prendre soin, au sens de « care », de ceux et celles qui cherchent protection sur leurs côtes et donc à leur offrir l'hospitalité. Alors, outre les notions de voix, de légitimité, de type de discours qui serait acceptable ou entendable, se pose la question des formes narratives par lesquelles articuler les expériences de la limite. Alors, les écrivains peuvent certes choisir de représenter l'expérience des réfugiés par le biais de récits réalistes qui reposent sur la linéarité, la causalité, la prévalence d'une voix monologique. Par exemple, un réfugié qui raconte sa propre histoire chronologiquement ou celle d'un narrateur qui rapporte la vie d'un réfugié. C'est par exemple le cas dans « A Man of Good Hope » de l'écrivain sud-africain Johnny Steinberg. C'est un récit non fictionnel qui relate l'histoire réelle du réfugié somalien Assad Abdullahi à partir des conversations entre l'auteur et Abdullahi sur une période de 11 mois. Et c'est un ouvrage relativement conventionnel dans sa forme. Cependant, de nombreux romanciers remettent en question la pertinence de formes narratives traditionnelles pour raconter des histoires de migration forcée qui impliquent une déstabilisation et une fragmentation du moi et du sens de la réalité, causée par ce que Edward Said, écrivant sur l'exil, nomme « the unhealable rift », qu'on pourrait traduire par le fossé inguérissable qui est creusé entre un être humain et son lieu d'origine, entre le moi et sa véritable patrie. Afin de rendre compte de cette rupture, certains écrivains ressentent le besoin de repousser les limites de la fiction par le biais d'un mélange des genres, d'une déstabilisation de la forme elle-même, par exemple en refusant le confort d'une intrigue téléologique qui serait intégrée dans un ensemble cohérent et homogène. Claire Gallien affirme en effet, je cite, « La langue et la forme ne peuvent rester insensibles aux circonstances inhumaines qu'elles décrivent. En mettant la langue et la forme en péril et en faisant de la place aux désordonnés, aux désarticulés et à la peine audible, la littérature et les arts contreviennent à l'impératif de narrativisation. » Et rappelle ce que Giorgio Agamben, dans le contexte de la littérature des camps, à interpréter comme la capacité de la langue à devenir une non-langue. Alors, cette question a bien sûr été abordée dans le contexte de la littérature de l'Holocauste en particulier et de l'écriture du traumatisme plus généralement. Comme le suggèrent Barbara Corté et Frédéric Regard dans « Narrating Precariousness », dans certains cas, les moyens de représentation eux-mêmes deviennent précaires, car ils s'efforcent d'exprimer ce qui semble échapper au mécanisme de création de sens de la narration, voire les faire exploser. Et donc, afin de transmettre la fragilité de la vie des réfugiés, c'est-à-dire ce que Giorgio Agamben nomme « bare lives », des vies nues ou des vies exposées à la mort, les écrivains peuvent chercher une forme qui soit aussi décousue, nue et précaire que l'expérience des réfugiés eux-mêmes. Ils peuvent choisir de développer ce que Jean-Michel Ganteau a nommé une forme vulnérable. Une forme qui ne se contente pas de montrer la vulnérabilité qu'elle thématise, mais qui l'incarne dans sa forme même, par exemple en ne respectant pas les conventions de la narration traditionnelle, en recourant à la fragmentation, à l'excès, à la contradiction, ou en mettant en scène l'échec même de la compréhension. Dans Trauma Theory, Anne Whitehead écrit elle aussi « Si le traumatisme est susceptible d'être formulé de manière narrative, il nécessite une forme littéraire qui s'écarte de la séquence narrative conventionnelle. » Et c'est précisément ce que proposent de nombreux ouvrages de refugee writing qui s'éloignent d'une narration linéaire, causale, logique et préfèrent faire des allers-retours dans le temps qui ménagent des ellipses dans la narration, qui font s'entrechoquer les lignes narratives et les genres littéraires, qui déconstruisent la syntaxe et la langue elle-même. Les ruptures dans la narration, dans le continuum espace-temps, dans la langue, constituent un moyen puissant de refléter le fossé inguérissable dont parlait Saïd. La fracture est ainsi reflétée dans la forme elle-même. C'est par exemple le cas dans No Friends But the Mountains, Writing from Manus Prison, qui est traduit du farsi, écrit par le poète et journaliste kurdo-iranien Behrouz Bouchani, qui fut détenu dans un camp de détention pendant 5 ans, après avoir fui l'Iran et tenté de rejoindre l'Australie. Dans cette prison, il fait l'expérience de la fragmentation. Comme il l'écrit, je cite, « I am disintegrated and dismembered, my decrepit past fragmented and scattered, no longer integral, unable to become whole once again. » Et son témoignage est lui-même fragmenté. Il a d'ailleurs été rédigé sur un téléphone sous forme de texto pendant sa détention. Il alterne prose et poésie, caractères romains et caractères italiques, et la narration est trouée de blanc qui creuse la page. Par cette langue poétique, multiple, fragmentée, Bouchani défie le discours et la terminologie officielle du centre de détention. Il écrit « I do not succumb to the language of oppressive power, I create my own language ». Alors dans ces ouvrages, les formes narratives vulnérables et déstabilisantes qui reflètent la vulnérabilité et l'instabilité des réfugiés peuvent à leur tour déstabiliser le lecteur. Et c'est ici, à mon sens, que se met en place une dimension éthique au sens d'une relation éthique avec l'autre, car le lecteur, déstabilisé par un texte fragmentaire ou un texte qui résiste au sens, partage une forme de vulnérabilité avec les personnages dépeints, une vulnérabilité qui, pour le lecteur, est herméneutique ou narrative. Ce partage, partage du sensible, dirait peut-être Rancière, renvoie à la définition, les définitions de l'éthique chez Judith Butler et Athena Athanasiou, pour qui la question de l'éthique est toujours une question de relation éthique, c'est-à-dire la question de ce qui me lie à l'autre et de quelle manière cette obligation suggère que le je est invariablement impliqué dans le nous. Le lecteur, confronté à une forme vulnérable, précaire ou fragmentée, peut faire une certaine expérience de la vulnérabilité, qui n'est bien sûr pas celle des réfugiés dépeints, mais participe peut-être de ce que Dominique Lacapra a nommé un vacillement empathique, un empathic unsettlement, qui, je cite, implique une sorte d'expérience virtuelle par laquelle on se met à la place de l'autre tout en reconnaissant la différence de cette position et donc en ne prenant pas la place de l'autre. Donc le lecteur est interpellé, invité à user de ses capacités d'attention pour reprendre les termes de Jean-Michel Ganteau dans son ouvrage « The Poetics and Ethics of Attention in Contemporary British Narrative ». Alors, dans la dernière partie de cet exposé, je propose de vous donner quelques exemples concrets de la manière dont la littérature sur les réfugiés peut articuler l'expérience de la limite par le biais de formes vulnérables et inciter alors le lecteur à mettre en œuvre ses capacités éthiques d'attention. Dans Contemporary Asylum Narratives Representing Refugees in the 21st Century, Agnès Woolley note la nécessité d'ouvrir des espaces et des modes de représentation alternatifs qui se distinguent des discours dominants contraints. Comme Jane Chemacherry et Cédric Courtois le montreront dans leur communication, le format court, que ce soit sous la forme de tale ou la forme de nouvelle, semble particulièrement bien se prêter à l'articulation de l'expérience de la limite, car elle évite l'écueil de la totalisation, du méta-récit, en optant pour le fragment ou le micro-récit. Alors, par le passé, Cédric Courtois a déjà analysé le recueil de nouvelles Breach de l'écrivaine nigériano-allemande Olumide Popula et de l'écrivaine zimbabwéenne Annie Holmes. Alors, l'historique de ce recueil présente quelques similitudes avec les Refugee Tales dont nous parlera Jane, car il est le fruit d'un appel à projet de la maison d'édition indépendante Perrin Press à l'été 2015, qui souhaitait voir publier un ouvrage sur la crise des réfugiés. Et Popula et Holmes se sont rendus au camp de Calais pendant l'hiver 2015-2016 et ont recueilli des récits et des témoignages de migrants et de bénévoles avant d'écrire leurs propres nouvelles qui jouent de la frontière entre fiction et réalité. Le recueil est composé de 8 nouvelles reliées entre elles qui sont entièrement écrites au présent et qui me semblent communiquer par ce biais une sensation d'urgence. Hein, une urgence liée au fait que, comme le note le personnage de la nouvelle Ghosts, « For you and me, there's only now ». Le camp de Calais, qui est un espace liminal, incarne bien la notion d'attente dont je parlais plus tôt. Les migrants sont en attente d'un passage vers l'Angleterre qui souvent échoue et les renvoie donc au point de départ. Plutôt qu'un lieu de transit, le camp devient alors un lieu fixe, stagnant, qui empêche toute ouverture. Un personnage de la nouvelle Extending a Hand nomme leur condition « stuck in transitness ». Dans la dernière nouvelle, qui s'intitule « Expect Me », le personnage Al-Ghali a réussi à traverser la frontière et à rejoindre l'Angleterre, mais dans ce nouveau lieu, il est toujours confronté à l'attente, celle de papiers qui lui permettront de travailler et de devenir un citoyen à part entière. Et le narrateur remarque « Nothing happens other than the past, than in the past or in the future for Al-Ghali. The distant future that could come tomorrow, that could come months down the line, or never. » Ici, le rythme sans cesse interrompu par les signes de ponctuation et les épanorthoses qui viennent modifier l'affirmation précédente, hein, « or in the future, or never », reflète bien la stase dans laquelle le personnage et la nouvelle sont englués. Le théâtre britannique contemporain s'est également emparé du sujet des réfugiés et a su développer des stratégies innovantes allant de pratiques immersives et participatives à l'utilisation verbatim de transcriptions juridiques en passant par le recours au multilinguisme. Alors, l'exercice est bien sûr périlleux pour des dramaturges qui tentent de créer un espace de parole qui ne transforme pas le réfugié en victime sans agentivité, dont le récit viserait à attirer l'attention empathique d'un spectateur qui est nécessairement dans une position privilégiée. Donc les questions éthiques que pose la représentation de l'histoire des réfugiés sur scène sont cruciales. Ils ont été étudiés par différents chercheurs, par exemple dans Refugee Theatre and Crisis, d'Alison Jeffers, Theatre and Migration, d'Emma Cox, Immigration and Contemporary British Theatre, Finding a Home on the Stage, de Victoria Sams, ou encore Performing Statelessness in Europe, de S.E. Wilmer. Dans la pièce The Jungle, de les dramaturges Joe Murphy et Joe Robertson s'inspirent de leur expérience en tant que bénévoles dans le camp de Calais, où ils ont fondé leur propre compagnie de théâtre qui s'appelait Good Chance. La pièce, qui fut écrite et produite après le démantèlement du camp, recrée le restaurant afghan qui avait éclos dans le camp de Calais. Et la pièce fut jouée à la fois par des acteurs professionnels et par des réfugiés qui avaient vécu dans le camp. Le camp lui-même est défini comme un non-lieu, comme le dit l'un des personnages. I thought this was a place, but it's not. It's between places. It doesn't exist. Et la pièce est volontairement chaotique. Elle mélange les langues, sans traduction. Elle juxtapose des chroniques de vie délabrées. Elle propose au spectateur une expérience immersive qui abolit la frontière entre la scène et la salle. Vous le voyez ici sur la photo. Et elle ne permet pas au spectateur de tout comprendre, renvoyant ainsi le spectateur à sa propre vulnérabilité. Et l'un des personnages admet ainsi « We have no idea what's actually happening ». Le sens est volontairement suspendu, y compris pour le spectateur. Alors le roman, et ce sera mon dernier exemple, a également su développer des formes non conventionnelles et vulnérables pour rendre compte des expériences des réfugiés. Par exemple, en rejetant toute stabilité générique, narrative ou réaliste. C'est le cas dans Exit West de l'écrivain anglo-pakistanais Mohsin Hamid, où les réfugiés se téléportent brutalement d'un pays à l'autre en franchissant des portes noires. Alors ce mode de déplacement soudain semble bien sûr éluder l'expérience longue, douloureuse et dangereuse du franchissement des frontières, mais il reflète aussi le choc brutal de la rupture avec son pays, avec sa famille, avec sa langue. Le lecteur lui-même ne comprend qu'après coup le principe de téléportation et est donc lui aussi déstabilisé, vulnérabilisé par le mode narratif discontinu. En outre, plusieurs micro-récits viennent régulièrement interrompre la trame principale sans qu'aucun lien ne soit jamais tressé entre eux ou entre les divers personnages, ce qui reflète dans la forme même la déconnexion qu'expérimentent les réfugiés. Donc pour conclure, dans ce roman, mais aussi dans d'autres, comme Travelers de Helen Habila, romancier nigérian, dans les nouvelles, dans la pièce de théâtre dont j'ai parlé, les écrivains développent diverses stratégies pour déstabiliser la forme et ainsi refléter les épreuves limites traversées par des réfugiés pendant et après leur déplacement forcé. La multiplicité des récits, les changements de focalisation et de mode narratif, ainsi que l'écriture fragmentaire, témoignent de l'impossibilité d'inscrire les expériences des réfugiés dans un seul schéma cohérent et homogène. Néanmoins, les écrivains exploitent aussi les potentialités narratives pour imaginer des moyens formels de relier des histoires apparemment disparates. Ils suggèrent ainsi des possibilités de solidarité interculturelle entre des réfugiés qui partagent une condition commune de vulnérabilité. Dans Travelers de Helen Habila, par exemple, les histoires juxtaposées de réfugiés ou de migrants trouvent un lien par l'intermédiaire du personnage principal qui écoute ces histoires et dont l'attention se fait de plus en plus prégnante à mesure que l'ouvrage se développe. Et cette écoute, cette attention, témoigne d'un élan éthique qui pousse le narrateur-personnage à sauver ces histoires de l'oubli et de l'indifférence et à leur donner une résonance, une voix, une visibilité, une présence, sans pour autant les homogénéiser. Le fragment perdure, bien sûr, car il ne s'agit pas de nier la fracture, ni d'imaginer qu'elle pourrait se résorber, mais le récit, si fragmenté et vulnérable soit-il, peut se faire lieu de refuge et de relationnalité éthique. Je vous remercie.